Alors ce soir, puisqu'on n'est pas encore à demain, j'ai souhaité décliner la question de ce thème pouvoir et contestation autour de la question des enjeux et du rapport entre les sexes. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut penser les choses du côté de la psychologie clinique. Évidemment, cette intervention elle s'inscrit dans la continuité de celle proposée par Jean-Baptiste Devaux la semaine dernière, puisque il était intervenu sur les remaniements de l'autorité au sein de la famille, et il avait rappelé à cette occasion que ces remaniements avaient eu lieu dans les années 70, en 1970, et que ces remaniements de l'autorité au sein de la famille sont contemporains des libertés acquises par les femmes à cette époque. Alors évidemment, moi je ne m'intéresserai pas, puisque ça a été déjà fait la semaine dernière, à la question de ces enjeux d'autorité au sein de la famille et à l'impact que ça peut avoir, notamment sur les liens entre l'enfant et ses parents. Je m'intéresserai plutôt à la question de comment ces remaniements peuvent avoir un impact sur les liens et les rapports entre les sexes, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes. Donc, petit rappel, donc je pense que Jean-Baptiste Devaux vous en a parlé la semaine dernière, mais je voulais quand même le rappeler, puisque je pars un peu de ce constat-là. C'est que, donc, dans les années 70, il y a eu cette modification du Code civil qui a remanié la notion de puissance parentale, paternelle, qui a fait disparaître la notion de puissance paternelle au profit de la notion, de la notion d'autorité parentale. C'était un remaniement important, puisque ça permettait aux femmes, et en l'occurrence aux mères, de devenir également responsables devant la loi de leur enfant, ce qu'elles n'étaient pas auparavant, puisque l'enfant, s'il était soumis à la puissance paternelle, la femme était quant à elle soumise à la puissance maritale, c'est-à-dire donc elle passait au cours de sa vie de la puissance paternelle, donc celle de son père, à celle de son mari au moment de son mariage. Donc la femme était considérée comme une mineure tout au long de sa vie et n'était de fait pas reconnue à égalité de droits et de devoirs avec son mari concernant la responsabilité devant l'enfant. Voilà, c'est aussi dans les années 70, je pense que je ne vous apprendrai rien, que les femmes ont conquis des droits important du point de vue de leur liberté, notamment concernant le fait qu'elles pouvaient accéder au travail, à des fonctions professionnelles de façon indépendante de leur mari, pouvoir gérer aussi leur argent de façon indépendante de leur mari, et acquis important pour les femmes, elles ont acquis le droit de contrôler leur fécondité et donc par là de faire de leur maternité potentielle un choix, plutôt qu'une contrainte, puisque jusque-là, n'ayant pas cette capacité de contrôler leur fécondité, les femmes étaient soumises en quelque sorte à une forme de fatalité liée à leur grossesse qui parfois, ou même souvent, les contraignait à rester au foyer pour s'occuper de leurs enfants et pouvaient contrarier des ambitions professionnelles et sociales. Voilà pour l'introduction. Il faut quand même noter que si les femmes ont quand même acquis le droit de vote en 1945 pour ce qui concerne la France, il faut quand même attendre les années 70 pour qu'elles soient reconnues comme des citoyennes à part entière et à part égale, on va dire, avec les hommes en ce qui concerne leur statut de parent. Donc, voilà. Ça se passe de commentaires. Les années 70, c'était il n'y a pas si longtemps. Sans doute, et même certainement parmi vous, il y en a qui ont connu cette époque, qui ont connu l'avant 70 et l'après. J'imagine que ça a changé beaucoup de choses, et pas que symboliquement. Voilà, une quarantaine d'années au regard de l'histoire de l'humanité, c'est très peu. Et donc aujourd'hui, je souhaiterais m'interroger avec vous sur l'impact de ces remaniements qui sont finalement très récents, sur le rapport entre les sexes, et puis interroger la question de la domination masculine, qui, même si ça va de soi, c'est une notion qui va de soi, on verra, on l'interrogera, malgré tout, reste encore très active de nos jours dans nos sociétés. Alors, évidemment, c'est des droits, nous l'avons dit, qui ont été acquis de haute lutte, il faut le rappeler, et il faut insister aussi sur le fait que ces acquisitions restent précaires. Hein. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, hein, les dernières élections présidentielles, pour voir que dans certains programmes de partis politiques, on pouvait voir remettre en cause, par exemple, le droit à l'avortement. Hein. Généralement, c'est des partis plutôt d'extrême droite, voire de droite conservatrice, mais quand même, ces idées-là peuvent encore avoir une place au sein de nos sociétés dites progressistes. Donc autant dire qu'il faut peut-être sans doute être un peu vigilant à tout ça et se rappeler que c'est pas parce que c'est acquis que pour autant ça n'en reste pas moins précaire. Alors évidemment ces progrès sont récents, je l'ai dit, une quarantaine d'années. Et effectivement on peut penser que les conditions de vie des femmes en France, hein, je limiterai mon propos à la société française, il y aurait beaucoup à dire sur le reste, mais voilà. On sait que les conditions de vie en France, elles sont plutôt favorables aux femmes. Hein. Si effectivement on compare les conditions de vie des femmes à celles des femmes qui subissent le joug de la domination masculine dans ses diverses formes par-delà le monde, hein, et je vais faire un petit rappel non exhaustif, féticide des filles en Inde par exemple, les mariages arrangés, les violences et les exploitations sexuelles, l'utilisation des femmes dans les enjeux de la guerre, hein, à savoir la domination de l'ennemi qui s'exprime par le viol, donc la domination sexuelle, les difficultés d'accès à l'éducation, etc., j'en passe. Donc évidemment, si on compare la condition des femmes en France, on peut penser que les femmes sont plutôt bien loties, et pourtant, on sait que le combat pour l'égalité est loin d'être acquis, bien qu'il ne mette plus en jeu de façon aussi marquée la question de la vie et de la dignité. Pour autant, on peut remarquer qu'il faut attendre qu'une loi impose la parité dans la vie politique pour qu'on voit observer cette parité respectée. Et encore, on sait que très souvent, la plupart des partis politiques préfèrent payer des amendes. Vous savez, c'est comme l'accession au logement, enfin, comme l'accession aux logements sociaux, mais comme la construction des logements sociaux, bien souvent, on préfère payer des amendes que respecter ce que la loi impose. La question de la parité aussi a été imposée dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Autant dire que s'il faut qu'une loi impose cela, c'est que ça ne va vraiment pas de soi. Évidemment, il y a la question plus importante de l'égalité des salaires. On sait qu'aujourd'hui en France, les femmes à tâches égales sont payées 20% de moins. La question de la maternité représente encore un frein dans la progression professionnelle des femmes quand elle n'est pas l'occasion d'un licenciement, d'un reclassement ou même l'objet de discrimination à l'embauche. Voilà, on pourra noter qu'il a fallu attendre le gouvernement Hérault et le décret modifiant la loi sur les retraites pour que les périodes de congé maternité dans le calcul de l'âge de départ à la retraite soient prises en compte. Donc jusque-là, on peut dire que les conditions d'accès à la retraite étaient de ce fait hautement discriminatoires puisque les femmes étaient obligées de poursuivre leur vie professionnelle plus longtemps que les hommes pour avoir droit à une retraite à taux plein. Des changements récents, donc, et acquis sur une période qui fut très longue, hein, on regarde l'histoire de l'humanité. Et là, je cite Françoise Héritier, qui a beaucoup travaillé cette question du masculin et du féminin, qui est une anthropologue. Elle dit que le Bureau international du travail a calculé qu'en prenant en considération les différentes avancées de la seconde moitié du XXe siècle en Occident, et si on continue à la même vitesse, il faudra encore 5 siècles pour arriver à la parité salariale. Voilà. Alors, pour introduire cette question du rapport entre les sexes, j'ai choisi de vous montrer la bande-annonce d'un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, et qui, s'ils ne l'ont pas vu, à qui je recommande vivement de le voir, qui s'intitule « La domination masculine » et qui est réalisé par Patrick Jean. Il a été réalisé en 2007. Donc je vous propose de vous montrer cette bande-annonce qui est éloquente et qui, je pense, conclura un peu cette partie introductive. Alors... Normalement, ça devrait marcher. Je vais essayer. Voilà. Ouais.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'école polytechnique où un tireur fou a tué 14 personnes. 14 personnes tuées sont toutes des femmes. Toutes des femmes. L'outil le plus parfait, c'est la femme. achetez une femme.
C'est quelqu'un qui l'a décidé, parce que les filles devaient faire la vaisselle, ou c'est une loi. Moi, à mon avis, ça a été décidé, c'est pas une loi.
Dans le domaine de l'imitation, vous avez ce qui est cuisine, ça fait beaucoup, et ça c'est spécialement pour les filles.
Papa, il a dit qu'il était. Ma maman, elle est d'accord.
Centimètres de plus, ma vie aurait été différente.
J'ai le pouvoir, j'ai la grosse bagnole, j'ai le pognon, poussez-vous.
Il y a une attente de virilité au niveau de la force.
J'ai besoin d'un homme qui me domine légèrement.
On a plus de droit d'être un homme. Le féminisme est extrême quand je mets le thé.
J'ai appartenu à la génération de celles qui ont gagné la lutte pour le droit à l'avortement, gagné la lutte pour les droits au congé de maternité, gagné la lutte pour l'équité salariale.
On est loin d'être dans un principe d'égalité.
Les mamans, elles font toujours le ménage et à manger. Et les papas, je regarde le journal.
J'espère que vous avez pu entendre. Voilà. Comme je le disais, ça se passe de commentaires. Pour autant, on a un certain temps devant nous et donc on va essayer de faire des commentaires. Mais je trouvais cet extrait, alors c'est pour ça que je vous recommande vivement le visionnage de ce film qui est, je trouve, très subtil et pas du tout dans la caricature et qui permet vraiment de situer les enjeux de la domination masculine et du rapport entre les sexes. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de poursuivre du côté de ce que la psychologie clinique peut nous aider à penser. Puisqu'on l'a vu, donc je l'ai redit, les évolutions sociales sont indéniables. Malgré tout, la domination masculine, c'est un fait, et ça continue d'imprégner de façon profonde nos mentalités et les rapports entre les sexes au sein même des sociétés qui se disent progressistes, humanistes. Donc comment peut-on comprendre ce rapport de pouvoir entre les sexes? La domination masculine est-elle une fatalité face à laquelle les femmes n'auraient pour seule issue que de se soumettre ou de contester? Voilà un petit peu les questions qui vont traverser cette présentation. Alors, pour essayer de comprendre cette question de la domination masculine au regard de la psychologie clinique, parce que c'est à la fois une question sociale, mais qu'on peut aussi comprendre à partir des théorisations psychanalytiques, je vous propose un petit peu de faire un petit rappel, de vous présenter les développements que propose Freud autour de la question du développement psychosexuel de l'enfant. Alors, il faut quand même rappeler qu'on doit au génie de Freud d'avoir découvert l'inconscient et sa nature profondément sexuelle. On lui doit également d'avoir révélé l'existence d'une sexualité infantile, notion qui fut en son temps fortement décriée. Pouvait-il en être autrement dans la très bourgeoise société viennoise de la fin du XIXe siècle? Parce que quand même, il faut rappeler que Freud a fait tous ses développements théoriques sur la fin et le début, enfin la fin du XIXe, la fin du 20, et le début du XXe. Donc effectivement, c'était sans doute très scandaleux à cette époque. Alors, d'abord, par sexualité infantile, il faut entendre une acception au sens large du terme de sexualité. Évidemment, il ne s'agit pas de considérer cette dite sexualité infantile comme l'expression d'excitation qui serait en rapport avec la zone génitale, comme c'est le cas dans la sexualité adulte, mais au contraire de reconnaître en fait l'existence d'activités mettant en jeu des zones corporelles et des zones qui sont dites érogènes, mais qui ne sont pas en lien directement avec la zone génitale. C'est comme ça qu'on doit entendre la notion de sexualité infantile telle qu'elle est développée par Freud. Donc ces zones érogènes concernent avant tout des fonctions corporelles de conservation, mais sont investies d'une dimension supplémentaire à celle de l'autoconservation, à savoir le plaisir d'organe, qui va être le plaisir pris indépendamment de la fonction biologique. À partir de ce constat, Freud propose l'idée d'une pulsion sexuelle qui se développe en étayage avec ce qu'il nomme la pulsion d'autoconservation. Il détermine donc des modes successifs d'organisation de la pulsion sous le primat de chacune de ces zones érogènes. Chaque étape du développement psychosexuel s'organise donc non seulement sous le primat d'une zone érogène, mais désigne également un type de relation à l'objet. Durant ces phases successives du développement, Freud qualifie les pulsions de partielles. elles sont qualifiées de partielles, parce que l'activité sexuelle qui se rattache à la zone érogène impliquée est étayée donc sur les fonctions d'autoconservation et a une nature auto-érotique. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il va développer l'idée selon laquelle l'enfant est un pervers polymorphe, qui sera évidemment une conception très osée pour l'avancée de l'époque. Tout simplement, il va s'autoriser ce rapprochement avec la question de la perversion parce qu'il insiste sur le fait que la nature non génitalisée de l'activité sexuelle est essentielle. Donc c'est ce qu'on observe dans les perversions adultes où le plaisir sexuel est pris dans les pratiques déviantes de la sexualité où c'est le primat des zones érogènes qui domine, et on pourra parler dans la perversion chez l'adulte de régression ou de fixation à ce stade de développement de la pulsion sexuelle. Alors Freud va proposer plusieurs étapes de l'organisation de la pulsion en fonction des zones érogènes impliquées. Le premier stade, sans doute que vous en avez entendu parler, c'est le stade qu'on qualifie d'oral, stade oral, qui se situe, puisqu'on parle de stade, il faut bien le situer dans le temps du développement, même si évidemment les choses ne sont pas aussi rigides, qui se situe ou qui se situerait entre 0 et 2 ans. En effet, à cette époque du développement de l'enfant, en même en l'occurrence du bébé, la pulsion va s'organiser sous le primat de l'oralité, et il n'aurait échappé à personne, évidemment, que l'activité essentielle du bébé concerne la zone buccale. Évidemment, la question de l'oralité, c'est à la fois implique la question de l'alimentation, donc là on retrouve la dimension d'autoconservation, hein, mais le plaisir pris à cette fonction, et qui est un plaisir de nature sexuelle, nous dit Freud, dans la mesure où on va observer que le bébé va pouvoir reproduire des expériences de suçotement, par exemple, mais qui ont lieu en dehors du moment où il s'alimente. Évidemment, comme je l'ai dit plus haut, la question de l'organisation orale de la pulsion implique un type de relation à l'objet. Ici, il s'agit de la relation de type d'incorporation, où il s'agit de mettre à l'intérieur de soi, au-delà de simplement un aliment, mais aussi tout le plaisir qu'il peut y avoir à échanger avec l'objet. C'est mettre à l'intérieur de soi l'objet et le monde. Et c'est là, la base, les fondements de l'identification. Évidemment, l'enjeu, c'est manger ou être mangé. Et là, je vous renvoie aux expériences que vous avez pu vivre ou dont vous avez pu être témoin, des échanges entre une mère et son bébé, où effectivement, ces échanges passent par l'intermédiaire de la bouche, hein, du côté du bébé, mais aussi du côté de la mère, qui va mettre en scène tout un tas de jeux où elle va jouer à manger son bébé. Voilà, le deuxième stade de l'organisation pulsionnelle, quant à lui, est dit anal. Il se situe entre 2 et 3 ans. C'est une période qui va coïncider avec l'apprentissage de la propreté, qui évidemment est permise par le contrôle musculaire, et où, dans cette organisation pulsionnelle dite anal, vont prédominer les enjeux liés à la défécation. Ainsi, l'enfant qui développe sa maîtrise sphinctérienne va pouvoir contrôler l'expulsion ou la rétention des matières fécales, et ça va alors prendre une valeur symbolique dans le lien avec l'objet. Et encore une fois, je vous renvoie à vos expériences personnelles, où vous savez bien que les parents sont tous extraordinairement émus de constater le cadeau que peut leur faire leur enfant quand il peut se mettre sur le pot, par exemple, et produire ses matières fécales et les présenter un peu comme un trophée à ses parents. A l'inverse, hein, quand les enfants qui ont bien compris cette fonction symbolique de don et de refus dans le fait de déféquer, quand ils vont chercher à s'opposer au désir de leurs parents, évidemment, on observera que ça provoque souvent l'inquiétude des parents, et voire l'angoisse parfois. Voilà, c'est aussi à cette période que se développe le non chez l'enfant, donc sa capacité de s'opposer. On observera aussi qu'il va faire des caprices, et qu'il va pouvoir, à travers ses caprices et cette capacité de s'opposer, essayer de contrôler la relation à l'autre, là où dans l'organisation orale de la pulsion, il était plutôt passif, même s'il y a des stades, des sous-stades, on va dire, d'évolution, mais que je ne détaillerai pas ici. Il y a quelque chose pour lui, dans l'acquisition notamment d'une autonomie plus importante grâce au développement de la motricité, à savoir la marche. Il y a une possibilité pour lui contrôler son environnement, de s'en éloigner, contrôler la distance et donc maîtriser son rapport à l'objet, là où peut-être auparavant il était passif. Alors, je vous rappelle ça simplement pour vous dire un peu comment Freud conçoit les choses, mais c'est pas tant ces étapes-là du développement qui nous intéressent ce soir pour comprendre les enjeux entre les sexes. Évidemment, c'est plutôt le troisième stade de l'organisation pulsionnelle que je développerai ce soir. Qui, encore une fois, les âges sont, c'est indicatif, mais ça n'est en rien, fixe, à ce point fixé en tout cas. Le troisième stade de l'organisation pulsionnelle, qui se développe à partir de 3 ans, c'est celui qui donc nous intéresse plus particulièrement et qu'on qualifie de phallique. Encore une fois, j'imagine que c'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus. Alors, à cette étape du développement pulsionnel, de l'organisation pulsionnelle, on va voir les pulsions qui, jusque-là, étaient qualifiées de partielles, s'organiser sous le primat de la zone génitale. Cette fois, la zone génitale va être impliquée dans l'organisation pulsionnelle. Mais, nous dit Freud, on ne verra pas à ce moment-là l'avènement de la sexualité génitale telle qu'elle se présente à l'âge adulte. Il faudra attendre une période dite de latence et puis l'adolescence et l'avènement pubertaire pour que se finalise, cette sexualité génitale. Donc là, on pourrait dire qu'on est dans une étape intermédiaire entre l'organisation pulsionnelle du côté de la nature auto-érotique de la pulsion et donc une étape entre la nature auto-érotique de la pulsion et la satisfaction pulsionnelle qui se trouve dans la rencontre avec l'autre et donc dans le plaisir pris dans la sexualité génitale à deux. Alors, ce qui caractérise quand même et qui différencie cette étape donc de l'organisation phallique et qui la différencie donc de l'organisation génitale, ça va être notamment que à cette période du développement, un seul organe génital est reconnu, et c'est l'organe masculin, nous dit Freud. Puisqu'à cette étape du développement, encore une fois, il suffit d'observer les petits enfants pour se rendre compte à quel point les développements freudiens trouvent une vérité, on va dire, du point de vue de ce qui se passe chez les enfants. Il suffit d'observer ces enfants pour prendre en compte, pour découvrir même que les enfants découvrent la différence des sexes et découvrent déjà leur sexe et puis en se comparant avec les autres, en observant aussi les adultes, ils découvrent que y a des sexes et qu'ils sont différents, qu'il n'y a pas qu'un seul sexe. Mais à ce moment-là, l'enfant va traduire cette découverte de la différence des sexes il va traduire ça par une espèce de conclusion théorique selon laquelle, malgré cette perception de la différence, il n'y aurait qu'un seul organe génital important, qui compterait, ce serait l'organe génital, l'organe masculin. Voilà. Alors, en l'occurrence, donc le pénis, et c'est pour ça qu'on qualifie cette organisation pulsionnelle de phallique, même si, on y reviendra plus tard, il faut différencier le phallus du pénis. En réalité, en effet, ce que l'enfant va investir à travers cette étape du développement, c'est la question d'un organe génital qui serait doté de puissance et qui... Voilà, et c'est pour ça qu'on le qualifie de phallique. Et donc ce sera seulement à l'avènement de la puberté, comme je le disais tout à l'heure, que la génitalité, à l'avènement de la puberté et donc de la sexualité génitale adulte, on va dire, que l'opposition qui va être centrale à ce moment du développement de l'organisation pulsionnelle, à savoir l'opposition phallique-châtrée, hein, c'est-à-dire avoir l'organe ou ne pas l'avoir, avoir l'organe puissant ou ne pas l'avoir, cédera cette opposition phallique-châtrée pour l'opposition entre masculin et féminin. Où du coup, le masculin et le féminin sont des notions qui impliquent la complémentarité des sexes et qui impliquent le fait qu'on a renoncé à la puissance d'un sexe et à la domination d'un sexe sur l'autre pour accéder à une notion de complétude et aller chercher chez l'autre ce qu'on ne trouve pas chez soi. Alors, la phase phallique est donc une phase importante hein, du développement psychosexuel et une phase à laquelle va se développer, et, voire même se déployer, ce que vous connaissez sans doute aussi, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe et son corollaire, à savoir le complexe de castration. Puisque la découverte de la différence des sexes va faire se développer chez l'enfant tout un tas de théorisations. Dans la mesure où il constate l'existence d'un organe génital masculin qui est protubérant, enfin qui est visible, hein, là où la femme pourrait en sembler dépourvue. Donc l'idée que celui-ci pourrait être une partie détachable du corps, là je parle du pénis, va se développer dans la tête de l'enfant, un peu sur le modèle de ce qu'il a connu du côté de sa maîtrise sphinctérienne et des matières fécales, hein, c'est-à-dire sur ce modèle-là, il va développer l'idée que le pénis pourrait être une partie détachable du corps, et donc ça va développer chez le garçon comme la fille des théorisations du côté de l'idée que ce sexe pourrait être châtré. C'est pour ça que, nous dit Freud, la question du complexe de castration est présente à ce moment du développement de l'organisation pulsionnelle. Alors, ça va avoir des effets différents, cette constatation, on va dire, chez le petit garçon et chez la petite fille. Alors, on va commencer par voir ce qui se passe chez le petit garçon. Donc, ce constat va le conduire à nier la castration de la mère et, en parallèle, à dénigrer le sexe féminin, puisqu'il est perçu comme châtré. Et c'est l'angoisse de castration, donc le fait de constater qu'il pourrait perdre son pénis, et donc être châtré, qui va lui permettre de sortir de l'Oedipe, dans la mesure où son attrait pour la mère et sa rivalité avec son père vont lui faire craindre de subir, par le père, hein, une castration, dans la mesure où qu'il convoite le même objet que le père. Alors, du coup, ça, c'est des images qu'on retrouve évidemment à l'œuvre dans la mythologie, autour, par exemple, de la figure de Priape. Je vous laisse apprécier. Alors, chez la petite fille, les choses vont se passer de manière singulièrement différente, hein, puisque, alors, on a vu que pour le petit garçon, ça va être ses angoisses de castration qui vont lui faire renoncer, enfin, lui faire sortir de l'Oedipe, c'est-à-dire renoncer à la mère par crainte d'un châtiment corporel du côté de la castration imposée par le père. Chez la petite fille, au contraire, nous dit Freud, c'est ces enjeux de la castration qui vont la faire entrer dans l'Oedipe. Puisque, nous dit Freud, toujours, la petite fille, constatant cette différence des sexes qu'elle va traiter, tout comme le petit garçon, selon une logique phallique-châtrée, cette petite fille va être conduite à envier le pénis, alors ce qu'on appelle communément l'envie du pénis. J'imagine aussi que vous en avez entendu parler. Dans la mesure où elle va se vivre comme dépourvue de cet attribut de puissance sexuelle et qu'elle va donc se détourner de la mère, dont elle va imaginer, théoriser qu'elle l'a faite ainsi. Et donc elle ne va pas donner le pénis et ça va la conduire à se tourner vers le père pour essayer d'obtenir de lui le fameux pénis qu'elle voudrait tant avoir et qui lui manque. En effet, là il faut souligner une différence importante hein, entre le garçon et la fille du point de vue du développement psychosexuel, c'est que le garçon comme la fille ont le même objet d'amour, le premier objet d'amour est la mère, et ils ont tous les deux ce même objet d'amour. Et donc pour la fille, il va falloir qu'elle opère, dans le cadre du complexe d'Oedipe, un changement d'objet, c'est-à-dire se détourner de la mère pour aller vers le père, ce que le petit garçon n'a pas à faire, dans la mesure où son premier objet d'amour étant la mère, il n'a pas à faire cette opération. Donc, on va voir se développer chez la petite fille une rivalité avec la mère pour obtenir les faveurs du père, ce qu'on observe chez le petit garçon de façon inverse, hein, puisque c'est la rivalité avec le père qui va être au premier plan et pour obtenir l'amour de la mère. Alors, la petite fille, du coup, va être amenée à investir son pouvoir de séduction comme un substitut du pénis manquant, hein. Donc le corps tout entier va être investi d'une potentialité phallique et elle va développer des théories selon lesquelles ce qui lui manque va pousser plus tard. Hein. C'est pour ça qu'elle va se mettre en quête, sous l'impulsion de son envie du pénis, se mettre en quête des faveurs du père dans l'idée plus tard qu'il pourrait lui faire un enfant. Hein. On est dans le registre des fantasmes, hein, évidemment. Et que du coup, en ayant cet enfant, elle pourrait être dotée de ce qui lui manque. Par ailleurs, elle va aussi, ce qu'on disait, investir sa séduction et puis son corps tout entier comme porteur d'une potentialité phallique, dans la mesure où, à la puberté, elle verra sa poitrine pousser et pourra investir cette poitrine aussi de cette potentialité phallique. Et là, je vous propose une représentation de l'organisation phallique de la pulsion du côté des femmes. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, on a là une représentation de la femme phallique, hein, érigée en guide du peuple et qui, évidemment, à l'endroit où Priap pouvait montrer son pénis en érection, elle montre donc sa poitrine, qui peut être effectivement ce que je disais tout à l'heure, hein, la poitrine étant investie d'une potentialité phallique. Alors là, on a la représentation d'une figure révolutionnaire féminine qui guide le peuple et qui soutient la révolte. Alors voilà, j'insisterai pas, je pense que l'image parle d'elle-même. On voit combien cette image, bien qu'elle représente une femme, contient une dimension phallique, hein, avec tous ses bras, ses drapeaux, ses armes dressées vers le ciel. C'est la version féminine du Priap qu'on a vu avant. Alors, voilà la conception que nous propose Freud, hein, j'allais dire, elle a le mérite d'exister. Et Freud était quand même un fin clinicien, quand même, d'avoir pu faire toutes ces observations et d'avoir oser proposer ces conceptions qui étaient quand même plutôt scandaleuses à l'époque, voilà, d'avoir osé déployer tout ça et d'avoir soutenu cette pensée-là. Pour autant, je pense qu'il va falloir qu'on développe un peu plus au-delà cette conception, parce qu'il me semble qu'elle est incomplète. En tout cas, avant de d'aller au-delà. Je voudrais juste rappeler sur le plan clinique quand même, parce que je fais appel à vos observations personnelles, mais toute la validité de ces observations, à savoir, par exemple, vous avez sans doute dû croiser, ou peut-être pour celles qui sont concernées, vous avez peut-être été une de ces petites filles qui cherchent à faire pipi debout, hein, et qui envie la possibilité qu'ont les garçons de faire ça. Voilà, alors ça nous parle directement de ce dont je viens de parler, de façon tout à fait imagée, et je crois qu'on n'a pas besoin de commenter, puisque ça vient très bien illustrer les propos que je viens de tenir. Mais par ailleurs, les angoisses de castration, par exemple, elles sont présentes chez les petits garçons, encore une fois, je rappelle à vos expériences personnelles, les petits garçons qui peuvent être pris d'une angoisse au moment de se décaloter, par exemple, ou pour ceux qui sont concernés par les rites liés à la circoncision, ou même pas forcément dans un cadre culturel, mais qui peuvent être soumis à une intervention chirurgicale de ce type, on voit des petits garçons qui vont s'évanouir, enfin, qui vont être très affectés par ces atteintes corporelles. Alors, ça, c'est pour les exemples cliniques. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les conceptions freudiennes, si elles ont le mérite quand même d'exister et d'insister et de nous dire à quel point c'est important dans le développement de la vie psychique humaine que de s'intéresser au développement psychosexuel, pour autant, ce qu'on a pu lui reprocher, hein, et on lui reproche encore sans doute, d'avoir une approche un peu trop phallocentrique, on pourrait dire ça comme ça. Et de son propre aveu, Freud pouvait reconnaître que pour lui, la sexualité féminine, c'était le continent noir. Donc, il reconnaissait lui-même, on va dire, ses manquements quant à penser cette question du développement psychosexuel chez la petite fille. Et en effet, sa théorie est très pertinente du côté du petit garçon, mais sans doute qu'il faut la compléter du côté de ce qui se passe pour la fille et dans les rapports qu'entretiennent les garçons et les filles au sexe féminin. Alors, puisque donc on l'a dit, l'envie du pénis est une réalité psychique et clinique, n'est-ce pas ? Pour autant, la découverte de la différence des sexes n'est pas uniquement à décrire sous l'angle de cette envie du pénis et donc de l'angoisse de castration qui lui est corollaire chez le garçon, car ça reviendrait finalement à décrire les choses de la façon suivante. Une fille qui voudrait prendre le pénis du garçon et le garçon qui aurait peur de se le faire prendre, c'est peut-être les choses sont peut-être un peu plus complexes et peut-être plus subtiles. Donc on va essayer d'étudier un petit peu comment on peut penser les choses de façon à compléter cette approche. Alors, pour autant, avant d'en arriver à cette tentative de compléter la théorie proposée par Freud, il faut quand même reconnaître que tous ces développements autour de la sexualité infantile quand même permettent de comprendre le processus de la domination masculine. On voit bien comment, dans l'organisation phallique de la pulsion, l'enjeu, comme on l'a dit, ça concerne l'opposition phallique-châtrée. Et donc ça implique d'emblée un rapport de domination qui n'est pas présent dans l'organisation génitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le sujet a intégré la castration, c'est-à-dire il a intégré sa finitude, il a intégré la limite liée à ses capacités sexuelles et à sa condition humaine, à savoir son incomplétude et son besoin de l'autre sexe pour satisfaire ses pulsions sexuelles. On retrouve cette idée dans la question de l'androgyne. Le fait, alors on pourrait dire que finalement, dans l'avènement de la sexualité génitale, il y aurait cette quête d'un autre sexe pour retrouver cet état primordial de l'androgyne. En tout cas, on peut penser que le mythe de l'androgyne et puis toutes ces déclinaisons dans différentes cultures tentent de représenter cet état primordial et cet état de fait de la nature humaine, à savoir que chaque être humain naît différent de sexe et qu'il est porté à tenter de retrouver le sexe opposé à travers la réunion sexuelle. Alors, effectivement, sur cette question de l'incomplétude essentielle, on pourrait dire, de l'être humain, Freud nous dit que la mort, en fait, est un équivalent de la castration. Dans la mesure où celle-ci est une représentation, donne la finitude de l'être humain, et que donc par là, la mort, le fait que nous sommes mortels, la nature mortelle de l'être humain vient s'opposer à l'omnipotence infantile et à sa toute-puissance phallique. D'où cette persistance, sans doute, des mythes liés à l'androgyne, enfin à la figure de l'androgyne, comme peut-être aussi une tentative de nier notre finitude et notre destinée qui est celle d'être mortel. Alors, la domination masculine, comme je le disais tout à l'heure, elle trouve son sens à travers les développements que j'ai proposés autour de la question de l'organisation phallique de la pulsion. dans la mesure où l'infantile, et ça c'est ce que nous apprend Freud, a une persistance très forte dans la psyché de tout sujet, quand bien même celui-ci a atteint la maturité. Et finalement, il continue d'œuvrer en nous et de nous traverser de façon inconsciente, évidemment. Et on peut penser, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, que c'est, l'infantile est un soubassement des structures sociétales dans lesquelles nous évoluons. C'est-à-dire que là, je propose de penser peut-être à l'inverse des sociologues qui vont, même si les théories de la sociologie sont sans doute vraies d'un certain point de vue, hein, il ne s'agit pas de démentir la pertinence de leurs propos, mais là, il s'agirait plutôt de penser comment l'infantile qui est à l'œuvre en chaque être humain anime, organise de façon inconsciente le rapport entre les hommes, et c'est-à-dire bien au-delà du fait qu'elle anime l'individu et sa psyché, elle anime son rapport au monde. Et voilà, on va dire qu'on je propose un peu de renverser le modèle. Et on peut penser que donc le rapport entre les sexes, et particulièrement la domination masculine, sont conditionnés alors, par la question de l'organisation phallique de la pulsion. Alors, quand on parle de domination masculine, il faut entendre, au-delà de ces mots, les enjeux d'une société qui fonctionne sous l'organisation du patriarcat. Donc, on peut dire, quand même, de ce point de vue-là, que la pensée freudienne, elle est à la fois l'héritière d'une époque, hein, une époque, encore une fois, que j'ai située entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, bourgeoise. Cette époque-là, qui connaît, j'allais dire l'avènement, mais non, enfin qui connaît depuis, enfin qui connaît comme depuis quasiment, peut-être pas la nuit des temps, mais quand même, un fonctionnement patriarcal. Voilà. Donc cette pensée freudienne, elle s'inscrit dans ce contexte, dans cette époque, dans ce fonctionnement sociétal. Et on peut penser que les résistances qu'il a pu avoir à penser la sexualité féminine sont autant le produit de ses propres défenses, puisque, encore une fois, je le rappelle, hein, il pouvait avouer que finalement ses difficultés à penser la sexualité féminine étaient liées au fait qu'il considérait la sexualité féminine comme un continent noir, mais aussi comme le fin. C'était aussi le produit de la société dans laquelle s'inscrivait cette pensée. Donc il y a un rapport étroit entre le fonctionnement sociétal et puis le développement de l'individu. Alors, peut-être là, puisque je viens d'introduire la notion de patriarcat, on peut peut-être rappeler que c'est une forme d'organisation sociétale qui se fonde sur la détention de l'autorité par les hommes et qui trouve ses fondements. Alors ça, c'est l'anthropologie, la sociologie qui nous l'apprend, notamment... on trouve ça chez Françoise Héritier, hein, qui trouve ses fondements dans le contrôle de la descendance, étant attendu, et ça c'est une spécificité biologique, on va dire, que face à la mater certissima, le père est toujours incertain. Alors là, c'est une spécificité, je vois les sourcils qui se froncent, alors je vais m'expliquer. La mère est certaine, c'est ce que dit cette... phrase latine, hein, la mère est certaine dans la mesure où c'est elle qui porte l'enfant, qui le met au monde, et au regard des souffrances qu'elle endure, on peut penser que, évidemment, qu'elle est certaine, la mère, elle n'a pas de doute sur le fait qu'elle est la mère de l'enfant qu'elle porte et qu'elle met au monde. En revanche, le père, bah, il est incertain, en tout cas, peut-être pas dans la réalité, mais du point de vue fantasmatique, il ne peut que douter de sa certitude dans la mesure où il n'a aucune capacité, enfin aucune possibilité de prouver sa paternité, puisque lui, ben, il ne porte pas l'enfant et il ne le met pas au monde. Et ça, c'est un fantasme qui est à l'œuvre chez les hommes, enfin, qui sont en passe de devenir pères, voilà, et qui est au fondement de la société patriarcale. Donc le fait que cette incertitude masculine, enfin ou paternelle, soit particulièrement angoissante, conduit et ça depuis très longtemps, les sociétés à s'organiser sur une tentative de contrôle de la descendance par le contrôle de la sexualité des femmes. Et comment on fait pour contrôler la sexualité des femmes? Et ben on impose, par exemple, la virginité avant le mariage. Et on va constater si, effectivement, lors du mariage, lors de la nuit de noces, si les draps sont bien tachés de sang, ce qui prouvera que la femme n'a pas eu de rapport sexuel avant son mari, et que donc elle est susceptible de lui donner des enfants qui sont issus de son sang. Voilà, c'est aussi pour ça que l'adultère est particulièrement puni, on peut dire ça, particulièrement réprimé chez les femmes plutôt que chez les hommes, puisqu'il y a toujours cette crainte que si une femme trompe son mari, elle puisse lui donner un enfant qui ne soit pas de lui. Donc voilà, la virginité avant le mariage, et aussi la question du contrôle de la séduction, enfin du pouvoir de séduction des femmes, hein, puisqu'il ne faudrait pas que celle-ci aille séduire d'autres hommes, puisque, encore une fois, la question de l'incertitude du père et donc de la filiation qui découlerait d'une grossesse issue d'un adultère, par exemple, renverrait le père à ce qu'il y a de plus fondamentalement angoissant pour lui. Et donc, c'est aussi pour ça que dans les sociétés patriarcales, les femmes sont généralement maintenues à l'espace de la maison, hein, et que, d'une certaine façon, si on les empêche de sortir de la maison, ben, on les empêche d'avoir des rapports avec d'autres hommes. Et donc, encore une fois, on maîtrise la descendance qui sera issue de ces femmes. Alors, du coup, l'incertitude hein, dont je parlais de ces pères quant à leur place de géniteur auprès de l'enfant, enfin, donc a été palliée depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures, c'est important de le dire, par une architecture sociale et juridique très complexe qui place l'homme au sommet de la pyramide symbolique du pouvoir, de la domination des femmes. Ça se retrouve à travers, par exemple, la question de la transmission du nom de famille, des valeurs, de la religion, des normes, etc. Alors, cette forme d'organisation sociétale, donc dite patriarcale, ne peut que renforcer à la fois les angoisses de castration chez les hommes et l'envie du pénis chez la femme, dans la mesure où, effectivement, tout tend à laisser penser qu'il est effectivement préférable d'avoir un pénis, pour les femmes, puisque si on a un pénis, ben, on est situé en haut de la fameuse pyramide sociale et qu'on jouit d'un pouvoir et d'une liberté plus grande que si on est une femme. Et puis, effectivement, l'envie du pénis est activée chez la femme, plus les angoisses de castration sont importantes chez les hommes et plus ça pousse les hommes à mobiliser d'autant plus des signes relatifs à leur virilité, à leur force de domination, à leur pouvoir de domination sur les femmes. Cela étant dit, on peut aussi noter qu'une différence importante du point de vue biologique, on va dire, entre les hommes et les femmes concerne aussi la question de la force musculaire, hein, et que les hommes dotés de cette puissance-là ont aussi, dans la réalité, un pouvoir de domination corporelle sur les femmes dont parfois ils peuvent abuser. Alors, évidemment, cette question d'un rapport entre les sexes où il serait préférable d'être doté d'un pénis transpire, je ne trouve pas d'autre mot, dans tout un tas de discours sociaux qui vont de la règle de grammaire, hein, je vous rappelle à vos bons souvenirs, le masculin l'emporte sur le féminin. Hein, c'est une règle de grammaire qui date du XVIIe siècle et qu'on doit à un monsieur qui s'appelle Vaugelas et qui justifiait cette règle par le fait, je le cite, que la forme masculine est la plus noble. Alors voilà, quand on met ça dans la tête des enfants dès le plus jeune âge, effectivement, les filles ne peuvent qu'envier le fait d'avoir un pénis et les garçons que craindre qu'on le leur prenne. Ne dit-on pas aussi, et là c'est quand même assez marquant, l'homme au lieu de l'être humain? Alors qu'est-ce qu'on fait des femmes dans tout ça? Est-ce qu'elles sont des êtres humains? Enfin, est-ce qu'elles sont considérées comme des hommes? Enfin, voilà. Donc c'est autant dire qu'à l'époque où on a inventé, enfin proposé cette conception, c'est qu'on considérait que l'être humain n'était fait que d'un seul sexe, à savoir celui de l'homme. Évidemment, on a aussi exclu, mais enfin, je vous donne des exemples, à la fois c'est anecdotique et en même temps c'est pour dire à quel point ces représentations sur le rapport entre les sexes infiltrent tous les discours sociétaux, toutes les représentations sociales et donc individuelles, hein, puisque on a quand même réussi à faire la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, quid des femmes dans l'histoire. Alors quand même, il faut préciser dans l'histoire qu'il y a une femme qui s'appelle Olympe de Gouges qui a écrit, elle, une Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne. Enfin bon, elle a fini décapitée, donc c'est vrai que... Voilà, revendiquer l'égalité, des fois, ça peut coûter cher. Voilà. Et là, on peut faire des parallèles, par exemple, mais bon, là, je vous cite des exemples, il y en a sans doute beaucoup d'autres que j'oublie. Le fonctionnement de l'agora grecque, hein, qui considérait que les citoyens, comme citoyens, en fait, seulement les hommes, hein, alors, et qui rangeait qui plaçait dans le rang des exclus, on va dire, de l'agora, les femmes au même titre que les esclaves. Voilà. Alors, juste pour le plaisir, une petite photo que j'ai faite sur des body pour des enfants. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point, dès le plus jeune âge, ces stéréotypes concernant les sexes infiltrent nos représentations et d'une certaine manière assignent chacun, hein, porteur du sexe féminin ou masculin, a une place liée aux représentations liées à son sexe. Voilà, donc les filles sont censées être jolies, têtues, rigolotes, douces, gourmandes, coquettes, amoureuses, mignonnes, élégantes, belles. Bon. Voilà, je sais pas si vous sentez concerné. Les hommes, quant à eux, enfin les hommes là c'est des garçons, sont censés être courageux, forts, c'est écrit en gros, hein, fiers, robustes, malin, vaillant, rusé, habile, déterminé, espiègle, cool. Alors, voilà, les garçons sont cool, les filles sont belles. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas du rose dans le... Non, c'est du orange, je crois. Mais bref. Il y a un petit peu de masculin dans le féminin et un petit peu de... vers ça. Ouf, les apparences sont sauves. Voilà, c'était pour le clin d'œil, j'ai trouvé ça... assez significatif. Alors, donc je terminais tout à l'heure là sur, avant de vous montrer cette image, sur les rapprochements qu'on peut faire, hein, sur la question de l'agora grecque, et j'ai sans doute pas choisi cet exemple par hasard, sur le sort qui peut être fait aux femmes comme aux hommes issus de populations discriminées, on va dire, ou des minorités sociales, on dirait aujourd'hui, là quand je faisais le parallèle entre le destin semblable, sans doute pas tout à fait, hein, quand même, nuançons les choses, en tout cas au regard de la manière dont elles étaient traitées du point de vue de leur possibilité à accéder à la citoyenneté, il y avait une assimilation faite entre les femmes et les esclaves, dans la mesure où ceux-ci avaient pour point commun d'être exclus de l'agora et donc non considérés comme des citoyens. On peut donc faire un parallèle entre statut social et sexe faible. Hein, on va rappeler simplement, ben peut-être ça évoquera tout un tas d'autres associations chez vous, que ce qui permit de développer la traite des Noirs fut l'idée selon laquelle l'homme noir était doté d'une âme moins bonne que celle de l'homme blanc. La question se posa quasiment en les mêmes termes concernant la femme, hein, et cela conclut à ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, mais peut-être qu'on peut quand même parler d'extermination. Puisque les sorcières étaient aussi considérées comme dotées d'une âme moins bonne et donc en cela exterminable. Donc on peut dire, mais ça c'est la sociologie, hein, qui démontre ça, que les femmes et les minorités ethniques ont pu connaître le même sort à travers les temps. Et là je vous propose cette image. Peut-être si vous n'arrivez pas à lire, une femme qui porte un cocard, on va dire, qui rencontre un noir qui a le même cocard et qui lui dit la différence entre un machiste et un xénophobe, le machiste peut t'offrir des fleurs avant de te tabasser. La différence se joue à un bouquet de fleurs. Alors, pourquoi tout ça? Comment on peut le comprendre? Car au fond, ce qui est fondamentalement difficile à penser pour l'être humain, c'est bien la question de la différence prise non pas dans un rapport de hiérarchie, mais d'égalité. Et ce, malgré, encore une fois, toutes les avancées sociales de nos sociétés, encore une fois, dites progressistes, j'insiste. Et c'est là qu'on voit que les luttes contre les discriminations se rejoignent et ne sont qu'une déclinaison du même problème. Et là, je cite de nouveau Françoise Héritier, qui dit donc dans son ouvrage Masculin-Féminin, l'observation de la différence des sexes est au fondement de toute pensée, aussi bien traditionnelle que scientifique. Il s'agit du butoir ultime de la pensée sur lequel se fonde une opposition conceptuelle essentielle, celle qui oppose l'identique au différent. Un de ces thémata archaïques que l'on retrouve dans toute pensée scientifique, ancienne comme moderne, et dans tous les systèmes de représentation. Alors, on peut donc penser que, si on revient un peu à notre objet de réflexion, du point de vue de la psychologie clinique, que les petits garçons et les petites filles, donc confrontés à cette fameuse différence des sexes, vont être amenés à théoriser aussi en fonction de ce qu'ils perçoivent du discours sociétal, ça, on l'a montré. Mais ça va beaucoup plus loin, puisque du coup, les mères peuvent en venir à souhaiter avoir un garçon. On l'a vu tout à l'heure, puisque l'enfant serait le représentant du phallus qui leur manquerait, mais en plus, le garçon redoublerait cette question-là dans la mesure où il serait porteur du sexe masculin, du sexe qui manquerait à la femme. Mais aussi, et ça on le retrouve beaucoup dans la clinique, notamment des enfants violents, si on écoute le discours des mères, souvent on entend qu'elles ne souhaitaient absolument pas avoir une fille, et quand on les interroge là-dessus, ce qui vient, c'est pas tant, bon, vous me direz, ça se dit pas comme ça, hein, l'envie du pénis, on n'avoue pas ça comme ça, si tant est qu'on en soit conscient, mais en tout cas, il y a un autre argument, et auquel je pense qu'il faut qu'on soit sensible, c'est que en tant que femme, elle pouvait ne pas souhaiter mettre au monde une fille, qui soient soumises, comme elles se sont senties soumises, au joug d'une domination masculine et à toute la problématique de violence que ça peut impliquer. Hein, par exemple, je pensais à une maman qui me disait que c'était vraiment sa terreur que d'avoir une fille, parce qu'elle ne voulait pas mettre cette enfant-fille en présence d'un agresseur masculin. Et il est vrai que cette différence fondamentale qui concerne aussi la force physique des hommes au regard d'une force moins importante, on va dire, chez les femmes, les met en situation potentiellement aussi d'être aux prises avec des agressions sexuelles ou de la violence conjugale, par exemple. Et ça, pour cette femme qui, évidemment, avait été victime de violence dans son enfance, c'était insupportable pour elle. Mais on voit aussi comment, du coup, dans son lien à son petit garçon, elle répétait en quelque sorte la dite violence qu'elle ne voulait pas faire subir à une petite fille qu'elle aurait mis au monde, et qui du coup, dans sa façon d'être en lien avec son petit garçon, avait quelque chose de la dimension agressive du sexe masculin qu'elle entretenait un peu inconsciemment. Ouais, du coup, son petit garçon... Il en venait à prendre les formes de l'agresseur qu'elle avait pu craindre pour elle étant petite, et puis qu'elle pouvait craindre pour une fille qu'elle aurait mis au monde. Voilà, c'est assez compliqué. Donc on voit dans le film, dans la bande-annonce sur la domination masculine, on voit comment la domination masculine, et c'est là où je vous dis que ce film, je le trouve assez subtil parce qu'il montre toute la complexité de la question, c'est pas un rapport évident comme ça de victime à bourreau. On voit que la domination masculine, ça pèse autant pour les femmes que pour les hommes, et ça bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, je m'explique. On le voit, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le film, à un moment, on voit des hommes qui se font opérer pour obtenir quelques centimètres de plus, concernant leur pénis. Hein, le chirurgien dit un centimètre dans la verge, c'est un kilomètre dans la tête. Pour dire à quel point cette question ne tient pas à une réalité, mais bien à des fantasmes. Alors voilà, quand on est dans une société où on exige, où on s'organise autour d'une domination masculine, ben c'est compliqué pour les hommes d'être des hommes aussi. Et en tout cas, pour certains, ils peuvent être en difficulté quant à assumer, à assurer ce rôle dont ils imaginent qu'on, enfin, ce rôle qu'on imagine qu'on attend d'eux, et que parfois ils peuvent se sentir pas assez puissants, pas assez dominants, et ça peut en venir à des situations qui sont tristes, hein, finalement, sur le plan clinique, puisque ça les conduit à se faire allonger la verge, ce qui est quand même un peu triste, on va dire, parce que c'est des hommes qui souffrent réellement. Et si vous regardez le film, vous verrez, je trouve que ce passage-là est très touchant, justement. Il parle vraiment d'une détresse de ne pas être doté de ces quelques centimètres qui feraient toute la différence. Et puis, on voit aussi que ce n'est pas nécessairement qu'une contrainte ou qu'un totalitarisme qui reposerait sur les femmes, enfin, qui contraindrait les femmes, mais on voit aussi comment les femmes, au sein de cette organisation patriarcale, elles peuvent être amenées à transmettre la question de la domination masculine, en entretenant, par exemple, l'idée auprès de leurs petits garçons qu'ils ont plus d'importance que leurs filles, qu'il faut leur passer tous leurs désirs, voilà, par exemple, et en transmettant, par exemple, si on pense à la question de l'excision, souvent, cette pratique-là, elle est faite par des femmes, hein, et sur des femmes, sur leurs filles même souvent. Voilà, on voit comment, en fait, cette question est assez subtile et assez complexe, et en tout cas, qu'elle ne supporte pas un traitement qui serait clivé ou manichéen. Et on voit d'ailleurs dans le film une séquence que je trouve intéressante, parce qu'encore une fois, le film a été réalisé en 2007, hein, donc il est contemporain. On voit lors d'un speed dating, hein, là c'est l'extrait qu'on voit, une femme qui dit qu'il faut qu'elle soit dominée. Alors, on peut penser donc que la théorie telle que l'a développée Freud, elle est très pertinente encore une fois, en regard de tout ce qu'on vient de développer, mais ce que je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'il lui manque quelque chose, sans mauvais jeu de mots, et qu'elle omet notamment, du fait sans doute des résistances personnelles et puis du contexte sociétal, la question du rapport d'envie mutuelle entre les sexes. Que Freud quand même va avoir l'intuition, on va dire, puisqu'il va la décrire, mais dans les cas pathologiques, tels que par exemple, il va l'observer dans le cas du président Schreber, hein, qui est le cas d'un paranoïaque, où là, il va constater qu'effectivement, il peut y avoir des délires qui prendraient pour objet la certitude que le sujet est une femme ou qu'il pourrait vouloir devenir une femme. On peut retrouver ça aussi, par exemple, chez des personnes qui cherchent à changer de sexe dans la mesure où leur conviction personnelle dément la réalité anatomique. Bon, alors Freud note quand même que ça peut exister, mais il ne réfère qu'à des cas pathologiques. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait dire pour essayer de comprendre ce rapport d'envie mutuelle entre les sexes, c'est quand même de dire que la découverte de la différence des sexes, elle fait naître de la crainte, puisqu'on découvre, selon toujours la logique d'une organisation binaire, phallique, châtrée, elle fait craindre à la fois la castration, elle fait craindre le fait qu'on ait été châtré, elle fait craindre qu'on risque de l'être, mais elle peut faire naître aussi et stimuler de l'envie. Alors on l'a vu du côté de l'envie du pénis chez la fille, mais pas seulement. Là, on va s'intéresser à ce que Freud décrit, et que je n'ai pas abordé tout à l'heure volontairement, à la dimension négative, on va dire, du complexe d'Oedipe. Tout le monde connaît la version positive du complexe d'Oedipe, c'est le petit garçon qui aime sa maman et qui veut tuer son papa, et la petite fille qui veut tuer sa maman et qui veut se marier avec son papa, version déclinée sous toutes ses formes, dans les contes et légendes, par exemple. On n'a qu'à regarder Blanche-Neige, par exemple. Voilà. Mais peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que quand on aime, on a envie de s'approprier les attributs de l'objet aimé, à commencer par les parties de son corps. Et là, ça complexifie un peu les choses, ce qui va me permettre d'introduire la dimension négative du complexe d'Oedipe, hein, telle que Freud l'a décrit, à savoir cette forme positive que je vous ai décrite dans sa forme inversée. Alors, ce qui donnerait pour le petit garçon « j'aime mon papa et je voudrais éliminer ma mère » et pour la petite fille « j'aime ma mère et je voudrais éliminer mon père ». Tout ça pourquoi ? Parce que encore une fois, le petit garçon ou la petite fille, eh ben, il aime intensément son père comme sa mère, et que effectivement l'amour, ça consiste à vouloir s'approprier les objets et les attributs de la personne aimée. Par exemple, on a chez le petit bébé la relation au sein. Hein, le petit bébé, quand il prend le sein, il ne prend pas que du lait, il prend le corps de sa mère dans sa bouche. Et ça, si on le prend sur une dimension métaphorique, il incorpore ce que je vous disais tout à l'heure, sa mère tout entière. Donc, cette question, ce constat-là de ce rapport entre aimer et vouloir s'approprier les attributs de l'objet aimé, et notamment les parties de son corps, ça va se décliner chez le petit garçon, par exemple, qui pourrait vouloir la puissance maternelle, au même titre que la fille va envier la puissance paternelle à travers l'envie du pénis. Et par exemple, ce qu'on va retrouver au niveau de la clinique, par le phénomène qui est décrit très fréquemment de la couvade chez les hommes. Alors si la couvade, c'est pas une manière d'exprimer le fait qu'on aimerait bien avoir le ventre de la mère ou être porteur de sa puissance, eh ben, je me demande ce que c'est. Les cas de stérilité féminine et masculine aussi peuvent être en rapport avec ces questions-là. On a aussi un fait clinique qui est assez récurrent, c'est les hommes qui vont devenir violents au moment de la grossesse de leur femme. Encore une fois, ça s'interroge, tiens donc pourquoi ? Pourquoi quand une femme tout d'un coup se dote des attributs de puissance sexuelle et notamment la puissance reproductrice, pourquoi tout d'un coup un homme peut devenir violent et vouloir réduire à néant sa compagne ? Ça c'est un cas extrêmement fréquent. Enfin, extrêmement fréquent dans la clinique. Alors, on retrouve aussi chez les petits garçons, ça c'est issu de ma clinique mon travail clinique auprès d'enfants, chez les petits garçons, par exemple, le fantasme de l'homme enceint. Des choses qu'on retrouve. Les petits garçons qui vont se questionner, est-ce qu'un homme peut être enceint? Ça n'existe pas, hein, mais on va le dire comme ça, enceint. Et chez la femme, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, oui, cette question de l'homme enceint se retrouve aussi chez la femme. C'est très intéressant quand, par exemple, au moment d'un désir d'enfant, elle peut se trouver en difficulté quant à son désir sexuel parce que, ça c'est aussi issu de la clinique, elle va trouver que son compagnon ou son mari a pris du ventre et que du coup, il pourrait ressembler à une femme enceinte ou à un homme enceint. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve. Alors en tout cas tout ça, là, tous les fantasmes là que je développe, ils témoignent donc d'une intense activité de théorisation concernant les attributs sexuels masculins et féminins, ainsi que la puissance qui leur est associée. Et par exemple, là, toujours sur le plan clinique, j'ai l'exemple d'un petit garçon de 9 ans qui va me décrire comme ça pendant des séances entières la lutte acharnée que se livrent à l'école les garçons et les filles pour obtenir le pouvoir. Alors c'est terrible, quand on l'écoute, on se demande où sont les adultes, qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment affreux, il y a du sang partout. Si on le croit, c'est vraiment terrible. C'est pire que la guerre des boutons. Bon, on peut penser quand même que là, tout ça est infiltré de ses craintes et donc d'une dimension fantasmatique importante. Toujours est-il qu'il y a sans doute dans la réalité une vraie lutte entre les garçons et les filles pour obtenir le pouvoir. Et me dit-il, après, celui qui gagne la bataille, le clan des filles ou des garçons, et ben c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui devient... Alors il ne dit pas le président, il dit le chef de la République, quelque chose comme ça. Et donc il s'agit de façon répétitive, à chaque récréation, de se prendre le pouvoir entre garçons et filles. Alors, un argument donc, pour expliquer la domination masculine, donc, serait cette différence fondamentale entre les hommes et les femmes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui repose sur, non pas sur l'existence ou pas d'un pénis, comme nous dit Freud, mais sur le fait que la femme est dotée d'un pouvoir, d'une puissance, celle de procréer, enfin d'engendrer et de mettre au monde, de donner la vie, et notamment, nous dit Françoise Héritier, d'être porteuse des deux sexes, le sexe masculin comme le sexe féminin. Alors, on a vu tout à l'heure que, sans doute, c'est cette différence-là, hein, qui peut-être bien plus que la différence liée à l'existence ou pas d'un pénis chez la femme, sans doute c'est cette capacité-là, cette puissance-là liée au sexe féminin qui conduit ou organise, fonde la domination masculine. Alors juste à ce sujet, j'ai une petite image à vous montrer. Hein. Du coup, quand même, le fait que les femmes jouissent de ce pouvoir-là rendrait difficile le fait qu'elles puissent vouloir conquérir le domaine, on va dire, le domaine qui ordinairement était destiné, enfin, ou du moins réservé aux hommes, les domaines professionnels, des domaines où... en fait, ou les domaines intellectuels, par exemple. Et par exemple, je vous montre un exemple qu'on trouve comme ça dans la littérature, que l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est que, donc, vous avez vu, je vous ai mis le texte là un peu plus gros, hein. Pourquoi les femmes ne pourraient pas accéder aux études, hein, nous dit-on, pourquoi elles ne pourraient pas devenir professeurs ou docteurs? Eh bien, c'est tout simplement parce que comme le travail intellectuel rend nos chercheurs et nos intellectuels chauves, eh bien, les femmes devraient, si elles souhaitaient investir ces domaines-là, renoncer à un ornement qui est leur chevelure. Et donc là, on peut penser que ce qui est sous-jacent, dans une forme de déplacement sur la chevelure, c'est quand même l'idée qu'on ne pourrait pas être doté d'une toute puissance, c'est-à-dire à la fois d'un pouvoir de procréer et en plus celui d'aller créer des œuvres ou découvrir des choses dans le domaine intellectuel. Donc, quand même, on ne peut pas tout avoir et il faut être castré, hein. Faut renoncer, quoi. Alors, concernant cette question du rapport d'envie mutuelle entre les sexes, il y a un point de vue qui est intéressant et qui est développé par Joss McDougall, une femme, évidemment, j'ai envie de dire, puisque peut-être qu'il n'y a que les femmes qui sont en possibilité de décrire ce que c'est que d'avoir un sexe féminin. En tout cas, sans doute qu'il y a des résistances à cela, mais peut-être pas les mêmes que celles des hommes. Hein. Joss McDougall, donc, qui est une psychanalyste contemporaine, hein, qui est décédée cet été, donc, voilà, qui exprime des choses très intéressantes sur la question, et notamment le fait que les garçons souffrent autant que les filles de l'envie du pénis. Donc ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que les filles qui ont envie de pénis, il y a aussi les garçons, et peut-être qu'on peut penser que effectivement, ce rapport d'envie mutuelle entre les sexes existe et que c'est pas seulement à l'endroit des organes génitaux du père des organes masculins. Alors, du coup, elle nous parle même d'envie et d'admiration éprouvée par le garçon pour le corps et la sexualité de la mère. Et elle nous dit que cette envie et cette admiration du garçon pour le corps et la sexualité de la mère sont semblables à celles de la fille pour le pénis et les prouesses sexuelles de son père. Donc là, on trouve validée, on va dire, la proposition que je faisais tout à l'heure, à savoir l'existence de ce rapport mutuel d'envie entre les sexes. Et là, elle amène une distinction intéressante, dont je vous parlais tout à l'heure et sur laquelle je ne suis pas revenue volontairement. Elle amène l'idée qu'il faudrait distinguer le symbole, c'est-à-dire le phallus, de l'objet parcelle, le pénis. Et elle nous dit, le phallus n'est pas le symbole de l'organe sexuel masculin, mais celui de la fertilité, de la complémentarité et du désir érotique. Donc, elle nous dit, elle ajoute, la monosexualité masculine ou féminine reste une blessure narcissique majeure. Atteindre la représentation symbolique de la complémentarité entre les deux sexes demande de renoncer au plaisir enfantin d'être et d'avoir les deux sexes. Et c'est ce qu'on retrouve dans les représentations des divinités de la fécondité, qui sont des divinités ityphaliques, c'est-à-dire qui sont porteuses d'un phallus, non pas au sens d'un pénis, mais au sens d'un pouvoir et d'une puissance de fécondation. Et là, on voit bien sur la déesse féminine, on va dire, que la poitrine ressemble à s'y méprendre à un pénis. Et sur votre droite, il y a une représentation d'un dieu Dogon qui est porteur à la fois d'une poitrine et d'un pénis. Donc, on voit comment c'est bien la question de la puissance sexuelle au sens, enfin dans la mesure où elle engendre, elle vise à procréer, qui est visée par cette question du phallus. Alors, moi du coup, en réfléchissant à tout ça, je me disais que face à la différence, il y a plusieurs possibilités. Du coup, je me suis perdue. Oui, alors soit on la nie, soit on instaure un rapport de domination. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais les deux, en tout cas, témoignent d'une difficulté d'accès à la génitalité où masculin et féminin seraient perçus donc dans une dimension complémentaire et donc pas dans un rapport de hiérarchie. Donc, effectivement, ce que nous dit Joyce McDougall, c'est que le renoncement de l'être humain à la toute-puissance infantile est difficile, celle où il était tout pour ses parents et qu'il avait le sentiment d'incarner lui-même cette puissance. Alors, Freud a lui-même effectivement relevé, puis il y avait cette question du pouvoir, enfin, de la lutte entre les sexes, hein, autour de cette opposition phallique-châtrée, et il s'est intéressé à quelque chose qu'il a appelé la fonction apotropaïque du symbole. Alors, tout ça pour dire que c'est au sujet de la tête de Méduse, je ne sais pas si vous connaissez sans doute le mythe de Méduse, hein, la gorgone qui a été décapitée par Persée, et qui était assez terrifiante, puisque d'un seul regard, enfin, il suffisait d'un regard pour que les gens soient médusés, c'est-à-dire changés en statue de pierre. Freud nous dit que cette représentation, elle est effrayante parce qu'elle condense à la fois la castration, enfin, parce qu'elle est le symbole de la castration du sexe féminin, et que la multiplication, alors souvent vous devez savoir qu'elle est représentée, cette méduse, la tête, à la place des cheveux, elle a des serpents. Donc il indique que la multiplication des symboles, des symboles phalliques, que ce qui sont représentés par le serpent, vise à venir démentir et à lutter en même temps qu'elle désigne l'angoisse de castration. Alors, effectivement, cette question, on voit la question de la différence des sexes, elle peut être traitée dans un seul et même objet, c'est-à-dire là on a la méduse qui porte à la fois la dimension de la castration et la dimension du symbole phallique, qui par sa multiplicité vise à lutter contre l'angoisse que la castration produit. Alors on pourrait, et là je remercie une amie qui m'a fait penser à ça, enfin qui m'a parlé de ça, on pourrait aussi interpréter par exemple la question du voile intégral comme étant porteur des mêmes enjeux, hein, à savoir, et là on va prendre des images, effectivement il s'agit de cacher, de dissimuler, mais pour mieux, de dissimuler quoi? Alors la dimension du féminine du corps, hein, le féminin qui serait porteur à la fois de l'angoisse de castration, mais aussi, on l'a vu, d'une puissance phallique, sur un symbole phallique. Et là, effectivement, ce que cette amie me faisait remarquer, c'était combien les femmes voilées, quand elles ont un voile intégral, elles peuvent représenter un pénis, un phallus, voilà, à mesure où l'ensemble de leur corps est dissimulé et il n'y a plus que leur tête qui pourrait représenter, pourquoi pas, l'extrémité du pénis. Et effectivement, je trouvais intéressant de déplacer ce que Freud nous dit sur la tête de Méduse sur des enjeux peut-être plus contemporains. À côté, je vous ai mis une illustration d'une lettre des liaisons dangereuses où on retrouve, hein, cette question de la domination masculine. On voit bien, hein, la multiplication des symboles phalliques, là, l'ange qui porte, je ne sais pas trop quoi, des lumières. La position basse, on va dire, de la femme et de l'homme. La femme, on a presque le sentiment qu'elle a peur. On ne sait pas si elle tend les bras vers l'homme ou si elle s'en défend. En tout cas, l'homme la domine. Et sans doute que cette question du rapport entre les sexes et du rapport de séduction tient au fait, enfin, que il est extrêmement angoissant de se confronter aux sexes différents dans la mesure où il nous confronte perpétuellement au fait que nous sommes incomplets. Et là, puisque je vous mets cette illustration des liaisons dangereuses, je voudrais citer un extrait de cet ouvrage, donc Valmont qui dit à la marquise de Merteuil: « Je n'ai plus qu'une idée, j'y pense le jour et j'y rêve la nuit, j'ai besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. » On voit bien comment le rapport entre les sexes s'organise autour d'un enjeu de domination, la domination qui vient à l'endroit de la crainte, de la peur que peut susciter l'autre sexe, la peur d'y être soumis et d'être dominé par lui, la peur de rencontrer l'altérité fondamentale à laquelle nous confronte le rapport amoureux et la sexualité génitale. Voilà, peut-être pour terminer, je disais tout à l'heure que face à la différence, il y a deux solutions, c'était un peu celle que je voyais, peut-être vous en verrez d'autres. La nier, ça serait par exemple l'exemple des régimes totalitaires qui vont fonctionner sur toujours plus d'eux-mêmes. Hein, quand on regarde par exemple l'apparat qui peut être déployé du côté des représentations, des manifestations l'image en fait qui va être véhiculée par ces régimes totalitaires, on voit que c'est des images qui immobilisent le nombre, hein, la fonction apotropéique, hein, la multiplication des personnes qui insistent sur la dimension du semblable, puisque tout le monde se ressemble, hein, dans ces manifestations d'apparat comme ça. Voilà, et donc dans ces régimes totalitaires, on retrouve à la fois cette multiplication du même, hein, l'insistance de toujours plus de même, et l'évacuation, voire l'extermination, puisqu'il s'agit bien de ça, du différent, alors que ce soit les handicapés, les minorités sexuelles, les minorités ethniques, etc. Ce sont donc des fonctionnements qui sont égalitaires, puisque tout le monde est pareil et tout le monde est considéré au regard du chef comme un sujet au même titre que les autres, mais c'est des fonctionnements qui sont donc égalitaires mais totalitaires. Il y a un seul chef face auquel tout le monde est au même niveau, mais qui repose sur la fonction expiatoire du bouc émissaire. L'autre solution qui est moins radicale, mais néanmoins qui est sans doute tout aussi complexe et à interroger, c'est que face à la différence, on pourrait aussi l'affirmer, la reconnaître, mais organiser un système de domination très subtil, instaurer donc un principe de hiérarchie stricte afin d'éviter toute conquête, tout empiètement. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur la question de la domination masculine et du fonctionnement patriarcal qui s'organise sur un fonctionnement patriarcal où la distribution des rôles et des places de chacun est complexe, beaucoup plus complexe que dans le modèle précédent qui est plutôt binaire, hein, bon, mauvais, semblable, différent. La pyramide s'organiserait plutôt de la façon suivante: l'homme blanc supérieur à l'homme noir, inférieur à la femme blanche, supérieur à la femme noire, etc. Et pour compliquer les choses, parce que là on est sur des questions de couleur de peau, on va dire, de différence de couleur, on pourrait intégrer, et c'est là où c'est très subtil et très complexe, la question des catégories sociales. En gros, mieux vaut être une bourgeoise qu'un ouvrier. Voilà, donc on observe un jeu subtil entre les différences qui se déclinent selon plusieurs modalités, le sexe étant évidemment celui qui est au fondement de cette organisation, mais donc la couleur de peau, la catégorie sociale, etc. Et on retrouve ce que notamment les sociologues, notamment Serge Pogam, ont décrit sous la notion de principe de distinction. Alors peut-être pour terminer sur une note peut-être positive, la question qui se pose, puisque moi aussi je vous ai proposé un modèle binaire, hein, deux solutions face à la différence, comment faire avec ça, peut-être envisager une troisième voie, souligner que ouais, on peut souhaiter quand même que pour l'humanité il se fasse jour un temps où la société s'organisera sous l'impulsion de l'organisation sexuelle génitale, où phallique châtrée cédera la place à masculin-féminin, dans une quête de complémentarité et de respect des différences, mais cela est sans doute un peu utopique. Et ce serait nier la force de la sexualité infantile dont Freud a dévoilé l'existence et laquelle ne cesse de montrer à quel point elle est pertinente. Voilà, alors on va terminer sur cette petite note. Constater les différences en respectant l'égalité. Voilà. Merci.